Merci Tiphaine, bon week-end. Aujourd'hui, langue de personnes et musique retrouvée avec Rachel Hertel, porteuse et passeuse de poésie yiddish, et le pianiste et musicien klezmer Denis Cugnot.
La compagnie des poètes, par Manou Farine.
Et c'est jusqu'à 16h, Rachel Hertel et Denis Cugnot, bonjour, bienvenue à tous les deux. Denis Cugnot, pianiste et musicien d'un genre constant qui passera du conservatoire, la musique savante et classique, à la musique klezmer que vous pratiquez depuis plus de 30 ans maintenant, 9 albums et quelques incursions côté cinéma avec Robert Bobert, on y reviendra. Double transgression s'il en est, hein, qui imaginait une vie pour le piano dans un genre musical né dans la rue, qui n'y avait donc fait aucune place faute de scène, j'imagine. Genre musical pas toujours bien considéré, y compris dans son Europe natale, avec, dites-vous, instruments en plus ou moins bon état et notes plus ou moins justes, et répertoire bien sûr perdu après la Shoah. Perte encore et langue fantôme avec vous, Rachel Hertel, qui avait fait de la transmission et de l'enseignement du yiddish un impératif catégorique, hein, impératif tenu à l'université où vous avez fondé le Centre d'études judéo-américaines, formant notamment des traducteurs et tenu en publiant, traduisant les encore trop nombreux trésors inaccessibles de la littérature yiddish, à commencer par Isaïe Spiegel, Leibor Rochman ou encore les poètes Avrom Zutskever et Jacob Gladstein, et signé aujourd'hui aux éditions L'Antilope, la traduction d'un monument de Levick, l'écrivain et poète américain de langue yiddish, qui en 1958, au terme de sa vie, écrit dans les bagnes du tsar, récit testamentaire et mouvementé de ses années de forçat et de sa traversée de la Russie, fer au pied au tournant des années 10, une traduction qui s'accompagne de la parution d'un long entretien aux éditions Albin Michel, dans lequel vous vous racontez et racontez cette obsession et cette quête de la langue perdue par la traduction qui pour vous se fait opération de deuil, activité intérieure constante et exercice spirituel.
Seid gesund, seid gesund, morgen vor ich hopp. Hab schein auf genäht, a Säckl, ob gescher dem Kopf. Hab kommen schein a Garte, zu genäht zum Kind. Und sich schein mit alle Schreinen durch der Wand zerscheint. Seid gesund, seid gesund, morgen vor ich hopp. Hab schein auf genäht, a Säckl, ob gescher dem Kopf. Aber heim habe geschrieben, schein dem letzten Brief. Morgen will ich sein, schon weit, weit, er geht's euch was hin.
La voix de Shava Halberstein accompagnée par The Klezmatics, mise en musique de Seid gesund, un poème de Levick, dont vous traduisez aujourd'hui un récit aux éditions de l'Antilope, Rachel Hertel. Seid gesund, qu'il faudrait traduire comment par
Portez-vous bien.
Et puis on pourrait dire Rava Halberstein.
Oui, c'est ça.
Je vous remercie. Vous n'avez pas fini de me reprendre, je vous le dis, dans l'heure qui suit. Que dit ce poème d'ailleurs, Rachel Hertel ?
Eh bien, il fait les adieux, il dit qu'il a déjà préparé son sac pour partir, et en fait, c'est son départ pour la Sibérie.
Alors, paraît aux éditions de L'Antilope, traduit par vos soins, Rachel Hertel, dans les bagnes du Tsar, un récit paru en 58, alors que Levick naît en Biélorussie à presque 70 ans. Ce sera le dernier texte paru de son vivant et dans le même temps son premier récit autobiographique. Qui est Levick en 58, quelle est sa place dans le paysage de la littérature yiddish et dans celui de la littérature américaine?
Eh bien, dans la littérature américaine, ce sera vite dit, parce qu'il n'avait pas de place dans la littérature américaine, mais il avait une très grande place dans la littérature yiddish. C'est Lévi qui est une des personnalités les plus charismatiques et le plus emblématique de la littérature yiddish, par son aura, par l'ampleur de son œuvre poétique, par l'ampleur de son œuvre dramatique, par ses essais et ses articles. Et il occupe une place spéciale, dirais-je, unique même, dans la pléiade des écrivains yiddish. Il est en quelque sorte en surplomb, un petit peu comme Victor Hugo l'est dans la littérature française. Toute son œuvre se place sous le signe de ces paroles d'un des personnages des frères Karamazov, Dostoïevski, qui était un de ses auteurs favoris. Je cite « Chacun de nous est coupable devant tous, pour tous et pour tout, et moi plus que tous les autres ». Et il aborde les problèmes cruciaux de notre époque, et ça c'est visible dès le premier chapitre de « Dans les bagnes de Tsar ». Il dit « C'est un non-événement », et en fait il se retrouve seul à l'isolement dans une cellule, et pendant qu'il explore la cellule qui fait 4 pas de large et 8 pas de long, quelqu'un d'autre est introduit dans la cellule, et c'est un homme d'une 60aine d'années, alors que Lévik, lui, il a une 20aine d'années.
Et à peine, hein. Il faut peut-être rappeler effectivement qu'il a été arrêté, condamné au bagne et à l'exil.
C'est-à-dire qu'il a eu une éducation traditionnelle, comme tous les enfants de cette époque, mais très vite il perd la foi et il se proclame proche du Bund, qui est donc le Parti Socialiste Juif, et participe à la révolution de 1905, et à la suite de cet engagement, il est arrêté, il est condamné au bagne, après avoir récusé le tribunal en disant que vous êtes des assassins, et moi je suis un révolutionnaire juif.
Oui, il n'a pas voulu être défendu, il n'a pas voulu d'avocat.
Il a refusé l'avocat, il l'a récusé tout de suite, il a voulu se défendre tout seul en disant « Je suis un révolutionnaire juif et vous n'êtes que des assassins ».
Alors, c'est son seul récit autobiographique. Hein. Alors, il avait effectivement déjà évoqué ce dont vous parlez, Rachel Hertel, mais plutôt il s'en était remis à la poésie. Je pense notamment à ses tout premiers poèmes où il évoquait déjà ses tribulations de bagnard. On en écoute un.
« Sur les routes de Sibérie, on pourrait encore aujourd'hui retrouver le lacet d'un de mes souliers déchirés, une ceinture en cuir, les débris d'une cruche, un feuillet du livre sacré. Sur les fleuves de Sibérie, on pourrait retrouver comme un signe l'épave de mon radeau submergé. Dans la forêt, un bout de corde ensanglanté dans la neige, des pas gelés. »
Alors je peux peut-être le lire en yiddish maintenant, ce poème.
Avec plaisir.
J'ai été lu en français. Auf die Wegen Sibirer kann emes noch itster gefinnen a Knäppel, a Strickel von Mainz a zerrissenem Schuch, a riemenem Pass von a lehmenem Kriegel a Stickel, a Blättel von heiligen Buch. Auf die Teichen Sibirer kann emes noch itster gefinnen a Zeichel, a Spendel von Mainz a der trunkenem Plit. In Wald, auf einem blutig vertrickenden Bändel, in Schnee, eingefrorene Tritt.
Merci beaucoup. Alors, ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'était la voix de Pierre-Michaël Lisan. Donc, c'est Sur les routes de Sibérie, hein, de Lévik. Alors, dans la traduction de Charles Dobzinski, hein, ça n'était pas la vôtre. Et c'était un extrait de Poème du Monde, la poésie yiddish, au micro d'Alain Bosquet, en septembre 71. C'est un cycle, hein, le poème dont est extrait ce qu'on vient d'entendre, qui paraît en 1915, alors qu'il vient tout juste d'arriver aux États-Unis, hein, parce qu'il arrive en 1913. Qu'est-ce que la poésie pouvait pour Lévik que ne pouvait pas le récit qui va venir 40 ans plus tard seulement?
Son œuvre est essentiellement poétique. Il y a une 40aine de recueils de poésie. Et quand il arrive à la fin de sa vie, il a 50 ans après, soudain les souvenirs reviennent. Alors les souvenirs de son incarcération reviennent, je crois, parce que peut-être, hein, c'est vraiment de l'autopsychanalyse de
café de commerce.
Je pense, en fait, qu'il a écrit son premier poème en yiddish, qui s'appelle « Dans les chaînes du Messie », dans la cellule de son incarcération. Et donc, je pense que c'est ça qui, à la fin de sa vie, remonte et l'incite à écrire son autobiographie de cette période uniquement. Parce que c'est un récit en deux parties, un récit qui commence par dans les bagnes du tsar et qui se termine par sur la route de Sibérie, sur les routes de Sibérie.
Puisqu'il va traverser véritablement le pays à pied. Alors, vous dites ses premiers poèmes en yiddish, qu'il aurait probablement écrit donc à ce moment-là, dans les geôles du tsar. Ses tout premiers poèmes de jeunesse, Lévique les écrit en hébreu. Il n'en reste rien, puisque ça a été brûlé par son père. Choisir finalement le yiddish, Rachel Hertel, comme langue d'écriture, c'était choisir quoi ?
C'était choisir d'abord la langue qui était sa langue maternelle. Ça, c'est une première chose, la langue de son enfance. Et c'est choisir aussi la langue qui était accessible au peuple. Parce que l'hébreu était connu par très peu de lecteurs. C'était le tout début de la littérature moderne hébraïque. Donc, effectivement, c'était la langue de la liturgie, bien sûr. Et c'était la langue savante. C'était la langue des débuts du sionisme. Et Leivik ne se situait pas du tout dans cette optique-là. Il se situait du côté du peuple. Et la langue du peuple était le yiddish. Et donc, il a voulu s'exprimer en yiddish. Et pour toucher le peuple par la poésie. Et par la grâce de sa poésie, il l'a fait et il a été reconnu comme un des plus grands poètes yiddish. Mais ce que je voudrais souligner, ce sont les thèmes qu'il aborde par le récit, sans jamais l'abstraction, alors que moi je vais le faire sous forme d'abstraction, étant donné le temps qui me limite, bien sûr. Alors ce que l'on trouve dans ce récit, c'est en fait une affirmation de l'unité de l'espèce humaine. Qu'on soit bon, qu'on soit mauvais, l'humain, c'est l'espèce humaine qui compte pour Lévik, comme pour Anthelme d'ailleurs. Il y a une empathie incroyable dans ce récit. Il y a aussi l'affirmation du caractère sacré du corps humain, parce que on est fouetté quand on est au bagne. Et il explique à quel point ça le blesse, que c'est une profanation du corps humain. Et le narrateur est un accoucheur de paroles, c'est aussi un consolateur. Il pose déjà le problème du terrorisme et de la non-violence. Il exprime sa non-violence et aussi la crainte que ceux qui sont les victimes maintenant, s'ils gagnent un jour, qu'ils se transforment eux-mêmes en bourreaux. Tout cela, il l'exprime au moment où il revient sur sa vie, sur l'ensemble du siècle qu'il a vécu, hein. C'est 50 ans après. Donc c'est un texte testimonial et testamentaire, comme j'ai dit, où se mêlent la mémoire, l'oubli, l'imaginaire, et le genre et qui apporte sa pierre au genre littéraire, malheureusement, qui est très répandu dans ce XXe siècle, c'est-à-dire la littérature carcérale.
Vous dites, Rachel Hertel, dans le livre d'entretien qui vient de paraître, là, dont je parlais tout à l'heure aux éditions Albin Michel, qu'au fond, la poésie en yiddish a pris la place de la prière et du blasphème.
Dès le début, avec les modernistes yiddish, on trouve surtout le blasphème, la libération de la religion, l'émancipation en quelque sorte. Mais après la guerre, après la Shoah, après l'extermination, après le churban, comme on dit en yiddish, eh bien, la poésie s'est substituée à la prière parce que on ne savait plus à qui s'adresser. Et pourtant, on s'adresse à quelqu'un qui doit avoir l'envergure du massacre qui a été commis, de la destruction de toute une culture, de tout un peuple. Et d'ailleurs, la poésie, comme je voulais vous lire d'ailleurs un poème là-dessus, où Lévik dit qu'il prie, mais il ne sait pas s'il est entendu. Mais il prie non pas à travers la prière, mais il prie à travers sa poésie.
Vous voulez bien nous le lire, ce poème, s'il vous plaît ?
Ben, volontiers.
Merci.
Ça s'appelle « Ma prière ». Je ne sais à qui la porter, ma prière, mais je la porte. Je ne sais à qui la dire, ma prière, mais je la dis. Elle se glace sur mes lèvres, ma prière, mais je la porte. Elle prend vie dans un éclat de colère, ma prière, mais je la dis. Elle se brise tant de fois en débris, ma prière, mais je la porte. Elle se lève sur 6 millions de tombes, ma prière, mais je la dis. Elle sombre et se lamente sans parole, ma prière, mais je la porte. Vers celui dont je ne sais s'il l'entend, ma prière, mais je la porte.
Merci. Quand Lévig, justement, s'empare du yiddish, hein, finalement, ou choisit en tout cas le yiddish pour écrire, où en est l'histoire littéraire du yiddish? À partir de quand est-ce qu'on peut parler du yiddish comme étant une langue littéraire, hein?
Depuis le XVIIe siècle, et facilement, notamment avec les Purim Spiel, c'est-à-dire les pièces de théâtre pour la fête de Purim, qui est une fête de carnaval en quelque sorte, et il y a des pièces écrites en yiddish à ce moment-là. Les acteurs passaient chez les particuliers, jouaient à ce moment-là la pièce pour dans une maison privée, et racontant l'histoire de Purim, c'est-à-dire l'histoire d'Esther que vous connaissez à travers Racine, je suppose.
Je voulais revenir, Rachel Hertel, sur ce que vous disiez sur le poème tel qu'il s'est imposé, disons, après la Shoah. Et je pensais, et vous en parlez assez longuement, hein, dans le livre Mémoire du Yiddish, après 1945, on a assisté à vraiment à un déferlement d'édition. En tout cas, les gens se sont mis à écrire, et d'ailleurs n'ont jamais cessé d'écrire. Et même pendant le désastre, ou même dans le ghetto, les gens n'ont jamais cessé d'écrire, et on a même, dites-vous, davantage publié à ce moment-là qu'entre les deux guerres. Donc beaucoup, même des romans ont été publiés, ont été écrits en tout cas, vraiment au pire du désastre. Comment expliquer qu'on les ait si peu entendus et que se soit installée cette idée d'un long silence avant que les témoignages aient lieu?
Oui, alors écoutez, ça c'est véritablement la grande erreur et la grande perte de conscience des gens, parce que tout le monde écrivait. C'est Ringelblum, l'historien du ghetto de Varsovie, qui dit tout le monde écrit de l'instituteur, de l'infirmier, de l'écrivain, tout le monde écrit, tout le monde veut témoigner. Même en 43, paraît déjà à New York un livre de mémoire, Yisker Bicher, ce qu'on appelle en yiddish Yisker Bicher, qui sont des mémoriaux à la, évoquant les villages et les villes détruites. Donc tout le monde écrivait dès la guerre, mais ce qu'ils écrivaient n'était pas audible, d'où le mythe du silence. Il n'y a pas eu de silence, il y a eu une incapacité d'entendre ce qu'il y avait à dire. Tandis que en yiddish, il y a une bibliographie de milliers de titres d'après la Shoah, évoquant les événements ou évoquant simplement ou écrivant de la poésie, écrivant des romans, écrivant des récits. Et tout cela, ça a été ignoré parce que c'est la malédiction des petites langues, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas des langues de grande diffusion, et donc il faut véritablement les transférer en quelque sorte, les translater dans une autre langue pour qu'elles puissent accéder au monde entier, ce qui n'est pas le cas malheureusement.
Vous parliez déjà de cette longue histoire, hein, de littérature yiddish, au moins depuis le XVIIe siècle. Pour autant, évidemment, la littérature et la poésie en particulier après la Shoah, j'imagine, a changé de nature. Hein, une poésie écrite dans une langue dans laquelle on meurt, dites-vous, et j'imagine donc a changé aussi de fonction. Je pense à Lévig, justement, on revient à lui, qui au fond ne s'est jamais remis de sa culpabilité d'avoir vécu le désastre depuis les États-Unis. Hein, il écrit « À Treblinka, je n'ai pas été, mais je me tiens à ses portes ». Qu'est-ce qui va changer dans son écriture à lui? Et d'une certaine façon, j'imagine que ça sera le cas aussi chez beaucoup d'autres auteurs. Qu'est-ce que la Shoah va imprimer à la langue elle-même, au yiddish lui-même, dans l'écriture notamment de la poésie?
Eh bien, ce que ça va imprimer dans la langue, c'est-à-dire que ça devient un véritable genre. Ça couvre tout un champ immense. C'est que on ne peut plus écrire des poèmes d'amour ou des poèmes de joie. On écrit sur la Shoah, sur le Khurbn, comme on dit en yiddish. Et Levick a fait toute une partie de son œuvre est consacrée à la Shoah. Beaucoup de poètes, Soutzkever, par exemple, qui est un autre énorme poète yiddish, eh bien lui aussi consacre une grande partie de sa poésie à cette destruction, à cette extermination.
Qui vient faire mentir donc cette fameuse phrase d'Adorno gravée dans le marbre, qui serait que d'écrire un poème après Auschwitz serait barbare.
Oui, mais je crois que c'est qu'elle a été prise hors de
qu'on
son contexte.
Qu'on a mal entendu.
C'est un malentendu parce que en fait, il fallait l'événement était tellement énorme, tellement sinistre qu'il fallait un interlocuteur à la taille de cet événement. Et du coup, il y a beaucoup de poésie yiddish qui s'adresse, comme le poème que j'ai lu, qui s'adresse à Dieu, mais en fait, écrit par des poètes qui ne croyaient même pas, qui n'étaient pas croyants, mais il fallait véritablement un interlocuteur qui fût à la hauteur de ce désastre.
Alors, Levick a écrit exclusivement en yiddish, il a signé une œuvre en yiddish. De manière générale, vous êtes intéressé aussi aux romans juifs américains, c'est même par là que vous avez commencé, hein. C'est votre thèse. Et puis, le premier essai que vous avez publié, vous dites que l'anglais américain aurait été plus accueillant que le français avec le yiddish, en tout cas d'un point de vue littéraire, hein. Non pas dans le sens où des mots yiddish auraient pu se glisser aisément dans la littérature, mais dans le sens où le yiddish aurait infusé quelque chose dans la langue, dans la musique du roman juif américain. Est-ce que vous pourriez nous dire, Rachel Hertel, où ou par où cette marque pourrait être reconnaissable ? Est-ce que c'est dans les dialogues ? Est-ce que c'est dans le recours à certains personnages ? Je pense à Levick notamment, mais aussi plus tard à des gens comme Ross, à Bello, etc.
Oui, eh bien écoutez, d'abord il y a des mots qui sont entrés dans la langue anglaise. En cela, l'américain est beaucoup plus accueillant que le français, qui croit beaucoup plus à la pureté et à la beauté de la langue. Il suffit de regarder tous les débats autour de la langue et toutes les discussions sur la manière de parler correctement et de ne pas utiliser d'anglicisme, par exemple. Alors que l'américain accueille des mots aussi bien du yiddish, de l'irlandais, du mexicain, de l'espagnol. Et où est-ce qu'on les trouve ? Alors, on les trouve dans les dialogues, nécessairement, mais on les trouve aussi dans un certain nombre de personnages, comme par exemple le Schlemihl, comment est-ce que je pourrais le traduire, le Schlemihl, qui est, aidez-moi.
Qui n'a pas de chance, ou le maladroit.
Le maladroit, celui qui n'a pas de chance.
Oui, c'est plutôt le maladroit.
Celui qui n'a pas de chance, celui qui n'a pas de chance. Donc, qui a une conception du monde qui ne correspond pas à la réalité. Et ça, c'est un des personnages qui revient très fréquemment dans la littérature juive américaine. Il y a l'intellectuel, bien sûr, il y a ce qui est de l'ordre du combat entre les générations, en quelque sorte, du gap, du gouffre qui sépare les générations, qui est un des thèmes récurrents. Et chez Philip Roth, on trouve très bien cette espèce de mélodie de la langue yiddish que l'on reconnaît quand on sait le yiddish, évidemment, qui n'est pas accessible à ceux qui ne le savent pas.
Alors, puisqu'on parle d'enchevêtrement de langue et de mémoire, alors c'est l'écrivain et dramaturge Jean-Claude Grimbert qui le raconte, c'est au micro d'Augustin Trapenard, c'est dans Boomerang, et c'était sur France Inter le 19 avril 2017.
Je pense que les mots, voilà, comme aussi juif, français, français-juif, Youpin, voilà, c'est-à-dire le poids des mots. J'ai vécu dans une sorte de double langage. En plus, il y avait des tas de mots qui se disaient à la maison que je ne comprenais pas. Ma mère disait quelques mots en yiddish, Elle parlait en yiddish avec son père, mais moi, je ne voulais pas comprendre ce qu'il se disait. Donc, je ne savais pas le yiddish, et je ne le sais toujours pas, mais tout le monde me dit, mais tu parles comme si tu traduisais le yiddish. Donc, les mots ont une... Voilà, les mots ont une histoire, et il se trouve que cette histoire, le yiddish est la langue qui exprime le mieux la douleur en faisant rire de cette douleur. Voilà, j'essaye de faire du yiddish en français sans bien connaître le français et sans connaître du tout le yiddish.
Rachel Hertel, est-ce que vous comprenez ça? Tu parles comme si tu traduisais le yiddish. Hein,
oui, parce que enfin, c'est lui qui le sait, qui en a conscience. Et effectivement, quand on regarde les pièces de Jean-Claude Grimbert, on éprouve ce sentiment que véritablement, ça aurait pu être écrit en yiddish.
Ce que vous écrivez, Rachel Hertel, dans le livre d'entretien, hein, vous racontez, c'était passionnant pour moi, dites-vous à Stéphane Bou, hein, avec qui vous vous entretenez, de pouvoir décoder un texte français à la manière yiddish et de décoder un texte yiddish à la manière française. Qu'est-ce que ça voudrait dire que cette gymnastique-là ?
Ça tient à mon adolescence, en fait. C'est-à-dire que je vivais à ce moment-là dans ce que j'ai appelé le phalanstère yiddish. C'était une maison où s'étaient regroupés les rescapés d'Europe de l'Est, des artistes, des peintres, des écrivains, des poètes, des danseurs.
Rue Patin, dans le 10e.
Exactement, rue Guy Patin, dans le 10e arrondissement. Et là, si vous voulez, les poètes parlaient de leurs poèmes, les écrivains de leurs romans, de leurs récits, et ils en parlaient d'une manière très simple. Ils ne faisaient pas d'analyse de leurs textes. Ils parlaient de leurs sentiments, ils parlaient de l'âme, ils parlaient de des rimes éventuellement, mais c'était tout ce qu'ils pouvaient en dire. Tandis que l'école m'apprenait à analyser les textes selon les règles de la rhétorique française. Et ça, ce qui me faisait plaisir, c'est de pouvoir lire le yiddish, les textes des poètes yiddish, en les analysant de manière rhétorique, et je suis prête tout à fait, et puis lire les textes français comme on les lit en yiddish, simplement par le sentiment et la chaleur qu'ils peuvent dégager.
Alors, à propos justement de sentiments et de chaleur, on écoute Eri De Luca qui parle de sa pratique du yiddish. Hein, c'est au micro de Laura Adler pour Hors Champ, c'était en mai 2016 sur France Culture, et il y est presque question de chaleur.
Et pour moi, c'est un témoignage. Je ne vais rien apprendre aux autres. Pour moi, c'est un témoignage, la seule possibilité de répondre.
Et vous parlez le yiddish aussi?
Je le lis, le yiddish. Je le chante aussi parce que j'ai appris des chansons. Mais...
Oh, une petite chanson alors.
In Wäldel beim Teichel durch seinen gewachsen, Margeritkele herrend und klein. J'ai appris des chansons parce que j'aime cette langue. Je l'approche à mon napolitain. Ce sont des langues qui sont très affectueuses, plein de diminutifs, d'affection pour les personnes. Ce sont des langues très courtes parce qu'elles viennent d'une grande densité habitative. Alors, quand il y en a beaucoup dans le même endroit, il faut choisir une langue très vite, très efficace, très courte. Et aussi l'aider avec de la gesticulation. Le yiddish est gesticulaire comme le napolitain.
Une langue qui se gesticule, hein. Ça parle à un pianiste, j'imagine.
Oui, de toute façon, toute l'œuvre d'Eric De Luca parle à nous toutes et tous. Et effectivement, cette trajectoire, cette érudition, cet ancien ouvrier qui a construit le périphérique à Paris quand il était établi. Et cette œuvre et ce rapport à la Bible, à l'hébreu, au yiddish quotidien, étant pas croyant, étant pas de cette culture. Et c'est passionnant par rapport au napolitain, parce qu'effectivement, il dit cette langue rapide, cette langue brève, il dit que dans son œuvre en italien, il pense d'abord, sa musique, elle est napolitaine. C'est sa langue, c'est pas simplement que c'est la langue où il peut s'insulter, où il peut insulter, c'est la rapidité de la langue. Et là, ce parallèle avec la langue yiddish, ce qu'il vient de dire, bon, c'est du Eri De Luca, c'est extraordinaire.
Une langue courte, Rachel Hertel, donc j'imagine que c'est une des difficultés à la traduire.
Bien, moi je ne la vois pas comme une langue courte, je la vois plutôt comme une langue extrêmement bavarde.
Elle peut être courte et bavarde. Hein.
Oui, extrêmement bavarde.
Il voulait dire rapide, en fait.
Rapide, mais très bavarde et très...
Ce n'est pas le cas du français, qui n'est pas une langue rapide du tout.
Non, le français n'est pas bavard non plus, mais est une langue très, très normée, en fait, alors que le yiddish est beaucoup moins normé que le français, par exemple.
Alors, vous parlez aussi de Lévik, Rachel Hertel, dans votre livre d'entretien. Vous parlez de son allure, de son corps, c'est-à-dire quand vous commencez à en parler, d'ailleurs la première fois que vous l'évoquez, c'est d'abord une silhouette, un corps, une allure que vous évoquez, alors que vous le rencontrez justement dans ce phalanstère yiddish, rue Patin. Vous allez vivre donc de 48 à 52 pendant 4 ans avec votre famille. Hein. Et vous racontez comment vous vous souvenez, vous étiez donc toute jeune, hein,
oui.
Vous étiez à peine adolescente, et que vous l'avez entendue dire de la poésie, j'imagine, et que vous avez encore à l'oreille la mélodie, on y revient, que vous avez encore à l'oreille la mélodie.
Absolument. Et sa présence, il avait un charisme absolument extraordinaire. C'était une longue silhouette blanche. D'ailleurs, évidemment, on n'est pas à la télévision, mais je vous montrerai ensuite quelques-unes de l'iconographie de ce livre sur Lévik. C'est une grande silhouette blanche, et quand je l'ai vu la première fois, c'était comme si je voyais un dieu, un demi-dieu, que je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça, et tout de suite, sans l'avoir jamais vu, je l'ai reconnu et je suis courue annoncer à mes parents que Lévik est arrivé. Et donc, après, il a évidemment lu ses poèmes et cette mélodie est entrée en moi par toute ma peau. Comme dit, comme il existe ce livre, Le Moipo, effectivement, de Anzieux, c'est ça. Eh bien, toute sa poésie est entrée en moi, et depuis, je n'ai pas pu m'en séparer, parce que j'ai traduit beaucoup de poèmes de Lévik.
C'est même par lui que vous avez commencé.
C'est par lui que j'ai commencé, et puis par lui, probablement, que j'ai fait la plus récente de mes traductions, Dans les bagnes du Tsar.
Est-ce que vous vous souvenez, puisque on est à cet endroit-là, donc dans ce fameux lieu, dans cet immeuble incroyable, hein, donc où se trouvaient effectivement toutes sortes d'artistes, d'écrivains, de poètes, de danseurs aussi, de chanteurs, j'imagine. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez pris conscience de cette langue, c'est-à-dire pris conscience du yiddish, de cette langue qui vous était jusqu'ici naturelle, hein, ça passait par quoi, cette prise de conscience?
Alors, d'abord, c'est ma langue maternelle. J'ai eu deux langues maternelles, c'était le yiddish et le russe, puisque j'ai passé la guerre en Union soviétique à l'époque.
Dont vous n'avez aucun souvenir.
Aucun instant, dont je n'ai aucun souvenir. Et cette langue était donc ma langue maternelle, et tout ce qui se passait dans ce phalanstère yiddish se passait en yiddish. Et j'ai pris conscience... J'assistais à toutes les réunions, à toutes les rencontres qu'il y avait, parce que c'était quelque chose qui me bouleversait, même si je ne comprenais évidemment pas tout, j'étais enfant encore, mais la langue, la mélodie de la langue, le contenu de ce qui se disait était tellement important pour moi que j'ai senti que ça me formait pour ma vie. Et effectivement, ça m'a formé tout au long de ma vie. J'ai traduit cette langue et j'ai voulu la faire connaître et faire reconnaître les trésors qu'elle comporte.
Ça voulait dire quoi alors pour vous, Rachel Hertel, que de transmettre, ça ne voulait pas dire sauver, ça voulait dire peut-être d'abord dire sa perte plutôt qu'une entreprise de sauvetage?
Écoutez, c'était les deux. C'était les deux, puisque j'ai enseigné pendant de longues années. J'ai enseigné le yiddish pour justement former des enseignants.
Moyennant une petite ruse d'ailleurs, hein, en passant par
les États-Unis.
L'étude de la littérature américaine.
Par la littérature américaine. Et en revenant, j'ai voulu effectivement faire passer cette langue ailleurs que simplement en yiddish. Mais en ce qui concerne le yiddish, c'est une langue que j'ai voulu transmettre par l'enseignement, par la traduction. Mais c'est une langue qui, au point de vue traduction, pose en général beaucoup de problèmes. D'abord, il a fallu former des traducteurs pour qu'ils c'était une langue apprise, ce n'était pas une langue naturelle. C'était donc une langue apprise et il fallait qu'ils aillent chercher loin en eux-mêmes cette langue, parce qu'ils pensaient la connaître, parce qu'ils pensaient que c'était leur héritage, et en fait ils ne la connaissaient pas, et ils ne pouvaient pas se remémorer cette langue, et elle ne pouvait pas être leur héritage, il fallait qu'ils l'apprennent. Donc, pour moi, la traduction, ça a été la transmission de la langue et des trésors que cette langue comporte. Mais elle comporte aussi, en même temps, une sorte de deuil, parce que je sais que ce que je traduis, personne ou presque personne n'ira le lire dans l'original. Donc traduire, c'est un exercice à la fois spirituel de transmission et un exercice de translation et de deuil, parce que je sais que, par exemple, dans les bagnes du tsar, personne ou presque personne ne le lira en yiddish, mais en revanche, on le lira en français. Donc c'était un sentiment extrêmement douloureux en même temps, parce que il y a le plaisir esthétique de la traduction, et en même temps, il y a la douleur de savoir que cette traduction, finalement, ne sera pas suivie d'un retour au texte original.
Parce qu'il n'y a pas de toute façon une nostalgie intrinsèque à la traduction, c'est-à-dire une nostalgie de la langue d'origine.
Absolument, ça c'est Benjamin qui l'écrit, il dit dans toute traduction, il y a la nostalgie de la langue originelle. Et c'est ça, je l'éprouve également.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Le yiddish n'est donc, voilà, vous le dites, n'est pas parfaitement vivant, n'est pas une langue morte pour autant, est une langue, alors par ailleurs, hein, qui est en train de revivre, notamment dans les milieux juifs orthodoxes. Comment est-ce que vous regardez ça, Rachel Hertel?
Alors, ce n'est pas une langue morte, c'est une langue qui a été assassinée en même temps que les locuteurs qui la parlaient. Actuellement, il y a d'une part les orthodoxes qui l'utilisent, mais qui ne l'utilisent pas de la même manière. Ils l'utilisent comme langue servante, en quelque sorte, pour commenter les textes éventuellement, mais qui ne l'utilisent jamais dans le sens où il y avait une littérature yiddish, alors que pour les orthodoxes, la dimension esthétique est absente. Ce qui est présent pour les orthodoxes, c'est véritablement de pouvoir commenter dans cette langue les textes sacrés éventuellement. Donc, si elle est vivante parmi les juifs orthodoxes, mais en même temps, elle est très bâtinée, soit d'anglais, soit d'hébreu, et ce n'est pas une langue qui porte les valeurs qui sont celles qui ont été portées depuis le XVIIe siècle jusqu'à l'extermination. Donc c'est véritablement... Il y a cependant des associations qui perpétuent la langue, comme par exemple la bibliothèque, la Maison de la Culture Yiddish, la bibliothèque Medem, et puis le centre Medem qui continue à enseigner cette langue. Et il y a, parmi les jeunes qui viennent, et les moins jeunes d'ailleurs, il y a cette volonté de, peut-être pas de perpétuer cette langue, parce qu'il n'y a pas de base sociale pour la parler, mais de la maintenir, en tout cas, de lui donner une sorte de survivance, voilà.
Alors, vos parents, Rachel Hertel, en tout cas votre père, celui qui vous a élevé, était poète, votre mère était romancière, tous les deux en langue yiddish, ça va sans dire. Est-ce que la question pour vous s'est posée à un moment donné, je ne sais pas si ça vous arrive peut-être dans le privé, parce qu'on n'a pas parlé aussi de tout ce lien à l'intime que porte véritablement le yiddish. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire en yiddish ou est-ce qu'au fond, traduire, c'est une façon de le faire pour vous, d'éviter de le faire directement?
Il m'arrive d'écrire en yiddish, mais c'est peu de choses. Véritablement, mon yiddish s'exprime par ma traduction.
Par la voix des autres.
Oui, c'est autrement dit en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est de voir que je lis la phrase en yiddish et je l'entends en français. Si bien que la traduction se fait presque simultanément avec la lecture. Si bien que le yiddish et le français sont mes deux langues maternelles, puisque c'est dans cette langue que j'écris et que c'est en français que je m'exprime et que j'écris.
Est-ce qu'il resterait quelque chose du yiddish dans votre français ? On parlait tout à l'heure de porosité avec l'anglais. Est-ce que le yiddish aurait amené une souplesse particulière à votre français ?
Ce sont deux univers qui se chevauchent. Je ne pense pas que mon français soit matiné de yiddish, ni le yiddish matiné de français.
C'était pas tout à fait dans ce sens-là que je disais. Hein. C'était plus dans le sens de souplesse. Non
de
pas
souplesse, de, voilà. J'ai cette souplesse dans les deux langues et j'ai ce mélange, en fait, qui se fait de manière une sorte d'alchimie. Vous savez, il y a un conte de Yitzhak Leibowitz Peretz qui est un des classiques de la littérature yiddish, qui s'appelle Métamorphose d'une mélodie. Et il prend une mélodie chantée par un rabbi chassidique et il la transporte d'un endroit à l'autre. Et cette mélodie se transforme au fur et à mesure qu'elle évolue au fur et à mesure qu'elle se déplace. Et bien pour moi, le yiddish est transmis comme la mélodie de Peretz. Il y a une métamorphose de la mélodie yiddish en français quand je traduis.
Un peu comme la musique klezmer dont on va parler tout de suite. Aleph Beis, extrait de Confidential Klezmer, un album solo au piano paru sous le label Bouddha Music en 2007 qui nous mène jusqu'à vous, Denis Cugno, musicien, pianiste, hein, comme on l'entend. Pianiste klezmer en solo ici, la musique klezmer ayant plus souvent recours au nombre hein, et surtout au violon, à l'accordéon, à la clarinette, que sais-je, qu'au piano. S'en remettre à cet instrument-là, au piano, c'était transgresser, c'était imaginer, c'était prolonger.
Ah, c'était sûrement pas transgresser, j'ai trop de respect pour la culture et les poètes yiddish. Non, mais c'est assez simple, la découverte de cette musique et cette chanson, bon, je la connaissais, ma mère me la chantait comme berceuse, elle me chantait quelques berceuses, au contenu d'ailleurs tragique, puisque après quand j'ai appris les paroles, je lui en veux, hein, je lui dis mais tu sais de quoi ça parlait parce que
par exemple
non mais c'est-à-dire que bah il y a des histoires terribles ou même mais tout, voilà et même là c'est-à-dire que cette voilà, c'est l'atmosphère apaisée du rébé qui apprend l'alphabet aux enfants, aux garçons, et qui lui dit l'importance de chaque lettre. Et puis à un moment donné, il est dit, ben, quand tu seras en exil, tu verras la force des lettres, et puis tu verras comment dans chaque lettre, il y a de la douleur et des larmes.
Donc, alors c'est ça justement, c'est comment on l'a joué, parce que là on entendait dans ce qu'on écoutait tout à l'heure, on vous entend aussi doubler les notes. Mmh. Alors j'imagine qu'il peut y avoir aussi... dans vos arrangements et vos improvisations, des sortes de, j'allais dire presque de ruses, hein, pour sonner ou pour timbrer, comme peut le faire la musique klezmer, en tout cas des instruments qu'ils utilisent, hein, que les musiciens utilisent, hein, et que le piano ne permet pas.
Voilà, donc on n'a pas la voix, on n'a pas le vibrato du violon, on n'a pas l'archet du violon, et on n'a pas le souffle continu de la clarinette. Donc c'est un instrument de percussion, c'est un instrument, même si on met la pédale, bon, bah, le son est percussif. Donc effectivement, faut, comme vous le dites, il faut ruser. Il faut pas ruser. C'est un piano imaginaire, c'est un sabalum imaginaire, c'est un orchestre imaginaire. Tout mon travail, c'est dire cette poésie, dire cette histoire par l'émotion, retrouver que je sois en permanence dans mon âme d'enfant, donc je redécouvre les notes. Mais oui, c'est développer un jeu, bien sûr, comme chaque musicien a sa sonorité particulière.
Alors c'est dans les années 70, hein, je crois, que vous tombez dans cette musique. Alors
non, c'est bien 80. Compris.
80. Oui, parce que c'est le premier duo, ça sera en 83 effectivement, avec Nano Pellet, le clarinettiste. Mais vous l'avez dit, hein, sont des musiques et des mélodies que vous avez entendues durant votre enfance. Vous vous souvenez de ce que vous avez entendu, perçu ou su quand vous avez assisté à un premier concert qui vous aurait décidé justement à passer de ce côté-là?
C'est les premiers concerts qui m'ont marqué dans cette musique-là, ils sont après mon choix.
Alors le choix venait d'où?
Le choix, il vient de on écoutait quand même des chansons yiddish dans les années 70, on avait un répertoire, je connaissais bien Theodor Bickel, aussi des chanteurs et chanteuses yiddish d'après-guerre, mais la musique instrumentale, c'est venu par Nano Pellet, ouais.
Qui
ben, en tant que clarinettiste, il a connu dès le départ Gyura Feldman, qui en 1972, donc avant le revival américain, qui date de 74-75. En 72, Gyura Feldman enregistre un disque qui s'appelle Yiddish Soul Music. Donc il parle pas de klezmer, c'est la musique de l'âme yiddish. La musique yiddish, en fait, parce que ce qu'on fait, c'est de la musique yiddish, même si on n'a pas les paroles. Donc Nano, moi je travaillais avec lui, Nano Pellet, sur le jazz, sur l'improvisation, on était dans des big bands, on se croisait, et un jour, comme lui fréquentait des musiciens, des chanteurs de yiddish qui étaient dans diverses troupes de chansons, de chanteurs yiddish comme Kol Aviv avec Dalila, et il travaillait avec Edishav Shafirovich, le merveilleux accordéoniste. Et donc un jour, Nano, on était amis, me fait écouter, enfin voilà, me dit tiens, on va travailler des airs, on disait pas klezmer, mais on savait pas comment dire, si c'était Jewish soul music ou Hasidic music. Voilà.
Et donc, et là, vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, Denis Cugnot, qu'on peut appeler klezmer. Oui, bien sûr. Dire quoi? Ça veut dire que les contours en sont flottants, que...
Bah, c'est récemment, ça définit un genre. C'était, comme je dis dans mes conférences, c'est-à-dire que quand on est en Bretagne, on dit pas, tiens, je vais faire venir un orchestre de musique bretonne pour le mariage. On fait venir des musiciens. Donc là, on faisait venir des klezmorim. Mmh. Mais c'était, voilà. Et qui jouaient de tout. Donc, la définition de genre, elle est du genre klezmer. C'est récent, et c'est une fois que ça n'a plus existé, une fois que tout avait été détruit. Donc ça, c'est toute ma tension, comme on entendait avec Madame Hertel, les tensions qu'il y a entre le deuil et la traduction. Et moi, j'ai cette tension permanente de voir apparaître un genre universel, puisqu'il y a des orchestres klezmer au Japon, en Norvège, des trucs, mais sur une chose qui est... Oui, maintenant, ça existe, la musique klezmer, mais est-ce qu'elle a vraiment existé avant? Et de toute façon, même si elle existait partiellement... Les musiciens ont été détruits, les poètes ont été détruits. Donc je suis dans une interrogation permanente. Et l'autre interrogation, c'est que contrairement aux historiens ou aux poètes et le travail de Madame Hertel, c'est que depuis que ce mot klezmer est apparu, donc par les États-Unis et maintenant définissant un genre, on n'a pas reconstitué, on n'a pas retrouvé un musicien klezmer des années 20, 25, à part c'est les mêmes qu'on cite tout le temps, ceux qu'on enregistrait aux États-Unis à partir de 1905. Mais vous vous rendez compte, depuis 40 ans qu'il y a ce revival, cette revitalisation, on n'est pas capable de redonner vie à un musicien, à un compositeur qu'on aurait ignoré ces 40 dernières années. Donc ça aussi, c'est un drame absolu. Et là, c'est un deuil qui ne peut pas se refermer.
Alors pardon d'y revenir, je comprends bien qu'il y ait tension et difficulté justement à exprimer des contours et qu'effectivement ce que pourrait désigner la musique klezmer aujourd'hui désignerait au fond une perte, donc effectivement un peu ce que racontait Rachel Hertel à l'instant. De quoi parlait-on alors lorsqu'on parlait de musique klezmer?
Non, on parlait de klezmer, de klezmerim, d'un mauvais musicien, d'un voleur. C'était une insulte de traiter de quelqu'un de klezmer. En yiddish, il y a le terme allemand pour définir le vrai musicien, c'est celui de conservatoire, c'est musikant, musikanten. Mais le klezmer, c'est un amateur et c'est un mauvais garçon. Donc il y a ce film magnifique avec Molly Picon où on voit bien. C'est Yidden mit Film. Et on voit bien ce que c'est le klezmer. C'est un mendiant. Et puis ils s'arrachent les comment dire pour avoir du boulot. Ils font le coup de poing pour expliquer les affaires. C'est des musiciens ambulants. Et puis c'est merveilleux dans ce film puisqu'ils enlèvent la jeune mariée puisque c'est un mariage forcé avec un vieux monsieur riche et ils l'enlèvent. Mais c'est magnifique là. Ils ont bien fait de le faire l'enlever. Mais voilà ce qu'est le klezmer. Hein. Et alors ce qui est extraordinaire là aussi, c'est que maintenant ça devient un genre noble. Et puis maintenant, c'est plutôt des gens, des musiciens qui ont fait le conservatoire qui se mettent à ça.
Pour autant, Denis Cugnot, est-ce que vous avez eu besoin du yiddish, hein, c'est-à-dire de retourner à la langue? Donc vous aviez, c'est un petit peu ce qu'expliquait Rachel Hertel tout à l'heure avec ses étudiants qui souvent pensaient que quelque part se logeait en eux une sorte de mémoire du yiddish. Donc j'imagine que ça devait être votre cas aussi. Si vous avez entendu chanter et parler en yiddish chez vous, est-ce que vous avez eu besoin d'un apprentissage ou d'un réapprentissage du yiddish pour jouer, pour composer, pour improviser?
Un peu, bien sûr, mais le plus important, c'est d'être en permanence sur la culture, sur la littérature yiddisho-américaine, sur tout. C'est-à-dire que c'est un bain permanent de ces traductions dont j'ai besoin. Il y a un peu de la langue originale, je lis, mais fondamentalement, c'est d'être baigné dans cette culture et dans l'histoire.
Alors, ce galer sur un bain, donc justement vous parlez d'un bain, mais se galer sur un rythme, sur une langue, c'est aussi ce que vous aviez imaginé avec le clarinettiste Yom, c'était pour le réalisateur et écrivain Robert Bobert, on l'écoute.
Mon père me parlait en yiddish, ma mère me parlait en allemand, et quand on est venu en France, bon, très vite on m'a mis à la crèche, et je croyais naïvement, quand j'étais tout petit, que pour chaque objet il y avait trois mots différents. Et puis bien évidemment le français a pris le dessus. Le yiddish a été un petit peu oublié, et puis comme j'étais tailleur pendant 8 ans tout de même, de mon adolescence jusqu'à 23 ans, dans les ateliers, c'était juste après la guerre, il y avait beaucoup de juifs qui rentraient en déportation, ou même qui venaient de Pologne, et dans ces ateliers, il y avait une personne sur deux qui parlait en yiddish. Et voilà, le yiddish était là, parce qu'il y a des mots qui disent plus dans une langue que dans une autre.
Je vous entendais dire, c'est une prière, ça c'est une prière.
Oui, c'est un nigoun. Alors dans les genres musicaux, dans la musique yiddish, il y a ces mélodies sans parole. Hein, il y a trois types de musique en musique yiddish. Il y a la chanson yiddish, il y a la musique instrumentale klezmer, et il y a ces nigounim, qui sont des mélodies extrêmement profondes, dépouillées et sans parole. Mais les paroles, on imagine ce qu'elles peuvent être entre la prière, l'insulte à Dieu, l'absence de Dieu. C'est-à-dire ces deux musiques, les nigounim sont dotés de mysticisme, pas de religiosité, mais de mysticisme. Oui, ça peut mener à la transe même.
Et là, que dirait cette voix? Alors, est-ce que je dis juste rapidement que c'est un extrait de L'humeur vagabonde au micro de Kathleen Evin sur France Inter, donc en novembre 2017. Ce qu'on entendait, c'était donc Robert Bobert, au moment de la sortie de son film Bien avant la nuit, pour lequel vous avez composé donc ce qu'on entend, avec le clarinettiste Yom, qui était une seconde collaboration d'ailleurs, pour vous, avec Robert Bobert. Et donc là, du coup, est-ce que ce qu'on entend relève de la prière, de l'invective?
Là, dans le film, c'est au moment où, enfin, à la fin du film, Vienne avant la nuit, il va trouver la tombe de son arrière-grand-père. Et donc là, on est dans le cimetière, avec toutes ces tombes du cimetière juif. Et on ne sait pas si on va trouver la tombe, mais on la trouve et on découvre. D'ailleurs, on découvre l'absence de certaines personnes sur la tombe. Donc là, on est dans un moment d'éternité. Et puis cet air, ce nigoun, en fait c'est un nigoun composé par Shimon Cohen, c'est pas, on l'a pas composé, on l'interprète en duo. Je pense qu'il dit vraiment, il est très très profond, oui. Il est dans le mystère.
Comment s'agissait-il là alors de nouer la musique avec le film de Nicuno? Est-ce qu'il s'agissait de le nouer avec le texte, avec l'image?
Robert Bobert est un réalisateur extrêmement précis en tout domaine et extrêmement qui se documente tout le temps, qui avant ou comme écrivain pour écrire un chapitre, il va vérifier tous les documents d'archives et tout. Donc travailler sur la composition ou la réinterprétation musicale dans un film de Robert Bobert n'est pas compliqué parce qu'il sait exactement à quel endroit et il veut. Alors même là dans le film, au début du film Vienne avant la nuit, il fait quelque chose qui est difficile mais qu'il voulait, qui est donc la reconstitution en train de voyage. Il y a la voix d'Yitzhak Niborski disant un texte en yiddish, il y a le sous-titre en français et il y a de la musique en piano solo pendant 6 minutes, tout un plan séquence sur des tableaux magnifiques de reconstitution du Shtetl. Voilà, donc ça c'est dense, mais c'est Robert qui me dit qui veut ça. Donc après c'est un travail de d'écouter ce qu'il souhaite. Et puis j'avais vu beaucoup les montages, les pré-montages, donc j'allais beaucoup à la salle de montage et on échangeait avant d'enregistrer.
Vous avez travaillé de la même manière lorsque vous avez travaillé justement sur le film de Bobert, donc qui utilisait le texte de Perec sur Ellis Island.
Non, enfin, là, c'était En remontant la rue Vilain, c'est l'hommage, avec des textes, des extraits.
Oui, avec des extraits de Perec.
Là, c'était pareil, c'est-à-dire que là, la commande extrêmement simple, c'est 10 ans après la mort de Perec, là, de mars 82, donc c'est le film en 92, et Robert Bobert me dit « je veux de la musique parisienne », c'est-à-dire accordéon, il y a eu accordéon, « je veux de la musique qui rappelle la musique populaire ». Parisienne, et il me dit avec, à certains moments, une pointe de musique yiddish. Donc voilà, j'ai composé un thème et j'avais tout. J'avais de l'accordéon, le côté, la double culture de Georges Perec et de Robert Bobert sur Paris, amoureux de Paris, amoureux des accordéonistes, de la vie, enfin, Doineau, enfin, Willy Ronis, toute cette époque-là. Il voulait pas de la musique yiddish, il voulait de la musique parisienne. Mais avec, à certains moments, il n'était pas impossible qu'il y ait une sorte de couleur.
Denis Cugno, Rachel Hertel, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Rachel,
j'étais vraiment très contente de le faire avec vous.
Merci.
Quand Manou m'a dit que ce serait, qu'on parlerait de Klezmorim, je ne savais pas de qui elle voulait. Et moi, je suis méfiante parce que c'est tellement banalisé maintenant. Effectivement, elle joue un rôle extrêmement important dans la culture yiddish. Et on la sent, en fait.
Sous l'angle de la chanson, parce que les chansons sont des poèmes dont il y a musique.
Bien sûr.
Ce qui est beaucoup plus ambigu et c'est la question de la musique instrumentale dite maintenant klezmer. Parce que la chanson, elle existe parce qu'il y a du texte, il y a du fond et il y a de la poésie.
Absolument.
Mais quelle musique instrumentale existait réellement, ça restera un mystère.
Ça, c'est autre chose, oui, bien sûr.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la technique, Alain Joubert, et comme chaque semaine, avec la collaboration de Thierry Beauchamp et François Connac à la réalisation, vous trouverez toutes les actualités de Rachel Hertel et Denis Cugnot sur le site de l'émission à réécouter ou podcaster sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Nicolas Martin.